Donc on est bien sur Fréquence Paris Pluriel et c'est les oreilles loin du front et donc on va passer allègrement au dossier de cette émission et on va parler donc des Big Brothers Awards.
Oui voilà, Big Brothers Awards, c'est parce que ce soir nous recevons deux éminents représentants et participants de ce qui est aujourd'hui une habitude puisque ça fait la cinquième édition que se produit, que se réunissent des gens qui sont... Que s'organisent les Big Brothers Awards. Donc, à ma droite, j'ai Jérôme.
Bonsoir.
Bonsoir. Et à ma gauche, en la personne de
Loïc,
j'ai un membre du jury de ces Big Brothers Awards. Donc, peut-être pour commencer, tout simplement, Jérôme, expliquer à nos auditeurs ce que sont ces Big Brothers Awards.
C'est une opération, une manifestation qui a lieu... une fois par an, dans une quinzaine de pays maintenant. Ça a commencé en 98 au Royaume-Uni. Une idée donc de nos petits copains anglais qui vise en fait pour une fois à faire une cérémonie de remise des prix où tous les sélectionnés en fait le méritent. Hein. Généralement, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que quand on remet des prix pour tout ce qui est, je dirais, culturel, on va dire, c'est généralement une cérémonie un peu coincée du cul, comme on peut dire, où en fait on congratule plus qu'on ne récompense. Et là, en revanche, effectivement, on essaye d'avoir une sélection généralement qui tente de retracer un petit peu toutes les dérives de l'année passée. Et également, oui, allez.
Non, préciser d'abord que les Big Brothers Awards, c'est pour.
Oui, c'est ça. C'est que il y a plein de choses à dire, effectivement, donc je me perds un petit peu. Il faut me couper la parole, sinon je pars un petit peu sur tout et n'importe quoi. Donc en fait, le fond de la chose, c'est de dénoncer les atteintes aux libertés individuelles et collectives. Et en général, on essaie un petit peu de retracer la société de surveillance et, je dirais, les travers orwelliens. Notre société moderne. Orwell, tout le monde, je crois, le connaît. George Orwell, un écrivain anglais qui est mort dans les années 50 et qui a écrit donc plusieurs ouvrages de référence, dont le fameux 1984, traduit dans je ne sais plus combien de pays, un roman d'anticipation dont on peut apprendre un petit peu à la relecture tous les jours. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dépassées, il y a beaucoup de choses qu'il a anticipées qui ne sont pas encore vraiment réalisées. Non.
Notamment le fameux terme de novlangue.
Oui, voilà, c'est ça. Mais peut-être on pourra en parler plus tard. Mais terme de novlangue, c'est vrai qu'il apparaît dans le bouquin d'Orwell. En VO, ça donne Newspeak, qui est en fait une espèce de nouveau langage, de nouveaux moyens syntaxiques, je dirais, de contrôler l'opinion des gens. Quoi. Je ne sais pas si Loïc veut apporter un petit élément de réponse par rapport à la revisitation de ce livre, qui est toujours vachement intéressant.
Oui, enfin, moi, ce qui m'a... Chacun y trouve des choses plus ou moins personnelles. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est cette utilisation de la guerre comme moyen de contrôle des gens. Donc, dans le bouquin, en fait, il y a deux pays, deux continents qui sont en guerre permanente.
Il y en a trois. Et les alliances se modifient.
D'accord, il y en a trois et les alliances se modifient. Dans chaque pays, il y a toujours un ennemi contre lequel se battre. Oui. Et donc, ça maintient les populations en état de terreur. Il y a toujours un danger. Et ça justifie à peu près tout. On a du mal à ne pas voir les parallèles avec la situation actuelle. Mon ami a étudié les relations internationales. Et il y a une grande question dans les relations internationales, c'est est-ce qu'un pays peut se passer d'un ennemi pour vivre ? Apparemment, non. En tout cas, pour contrôler les populations pour arriver à leur faire gober des choses. Donc aujourd'hui, il y a la montée du terrorisme. Aujourd'hui, on n'a pas de guerre en Europe, on n'a pas de guerre en Amérique du Nord. On a inventé des choses. Et ça fait fort écho à ce que présente Orwell dans son bouquin. Il le fait aller à un degré qui est quand même largement supérieur. C'est que là, la guerre est totalement fictive, totalement inventée.
Oui, et justement, peut-être si les Anglais, et puis maintenant aujourd'hui en France et dans d'autres pays, on a jugé utile de mettre en place de telles récompenses, c'est qu'il s'est passé certaines évolutions dans la société française, dans la société européenne, pour estimer qu'il y avait besoin de souligner certains aspects de dérives sécuritaires, de dérives sur le discours. Qu'est-ce qui, depuis, je ne sais pas, 20-30 ans peut-être maintenant, Il y a quelque chose qui a...
Oui, la grande question, c'est est-ce qu'on est plus ou moins libre maintenant qu'on ne l'était avant ? Probablement, par rapport à il y a un siècle, on est plus éduqué. Est-ce qu'il est plus facile de contrôler une population entière maintenant qu'il y a un siècle ? Vraisemblablement. Si on imagine qu'un régime dictatorial aujourd'hui s'empare de la France, est-ce qu'un tel régime aurait plus de moyens maintenant que pendant la Seconde Guerre mondiale pour arriver à traquer les maquisards, les gens qui essayent de restaurer un régime démocratique ? Sans porter de jugement, parce que c'est une question qui est certainement complexe, quand on regarde point par point, tous les outils qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui facilitent certainement le fichage des personnes et leur traquage. Alors là, on rentre directement dans l'attribution des prix. Sous cet angle-là, qu'est-ce qui faciliterait une dictature ? Et alors je ne sais pas si il faut évoquer maintenant ces choses-là, mais moi, ça me fait tout de suite penser à quand on appelle au filtrage de l'Internet aux frontières, donc on prend les communications, quand on essaye de savoir dans une seule machine l'état de santé de tous les membres de la population et que ce fichier puisse être centralisé, qu'il soit obligatoire, qu'on ait du mal à se faire soigner, qu'on ait le droit de mettre des caméras de vidéosurveillance un peu partout. Alors, c'est pour des motifs plus ou moins légitimes, mais in fine, quelle est la barrière qui empêche qu'on ait à chaque coin de rue une caméra reliée à on ne sait pas trop quoi. Donc, toute cette accumulation-là, c'est ce qui motive la récompense. Malheureusement, aujourd'hui, la problématique des Big Brother Awards, c'est plus de choisir qui est récompensé que de se dire, tiens, il y a eu une réduction, on est revenu en arrière, et maintenant on peut faire des choses de façon anonyme.
Excellent.
Oui, alors, bon, sur le palmarès, on va revenir, entre guillemets, le palmarès, comme c'est, on va revenir après, mais je voudrais vraiment qu'on comprenne comment ça s'est monté, cette affaire. Donc, ça vient d'Angleterre.
Oui, donc, l'ONG qui a lancé ça s'appelle Privacy International, donc qui fonctionne avec les mêmes... principe que les grandes ONG comme Amnesty ou comme la FIDH ou d'autres, c'est-à-dire qu'il y a d'une part un gros travail d'information et un travail de communication également. Et donc ça va être ce qu'on appelle maintenant les BBA, donc les Big Brother Awards. C'est un exutoire pour tous les militants qui rassemblent un petit peu, qui se rassemblent derrière nous. Un exutoire pour finalement montrer du doigt une fois par an et pour une fois arriver à désigner tout ce que la population, finalement, n'arrive soit pas à identifier, soit estime qu'il y en a tellement trop que ça sert à quoi de dénoncer, finalement. Parce que des entreprises qui font du flicage, il y en a des centaines de milliers dans le monde. Donc, arriver à dire pourquoi, elle, une année, elle sort du lot, je pense que là, évidemment, c'est de la subjectivité qu'arrive à en tirer le jury, enfin, un jury de 10 personnes qui, forcément, est subjectif et donc qui en tire des leçons politiques. C'est évidemment la leçon, elle est évidemment politique. Elle n'est pas de faire un espèce de vrai classement exhaustif qui n'aurait aucun sens, quoi. Donc ça, c'est, si je peux juste poursuivre sur la démarche. Au départ, donc, ça s'est fait par le bouche à oreille, par les militants de Privacy dans le monde qui connaissaient l'initiative. Et donc en France, on a lancé ça 3 ans plus tard, 2 ans, fin 2000, la première édition. Donc il y a quelques organisations qui sont affiliées derrière le comité de sélection, entre guillemets, c'est-à-dire des gens comme Souriez, vous êtes filmé, qui dénoncent les caméras de surveillance, des collectifs de sociologues, de journalistes, de juristes. Et donc tous les ans, il faut renouveler, je dirais, le quorum du jury, c'est-à-dire que bon, le jury, c'est évidemment un bien grand mot, mais on y tient aussi à ce que ce soit effectivement dénommé comme ça, puisque... il y a donc une délibération, il y a des gens donc, qui s'attendent autour d'une table et qui tranchent sur les dossiers minimum politiques. Et donc là, cette année, il y avait 10 personnes, il y en a généralement 10 personnes par an. Donc Loïc Dachary qui représente la Free Software Foundation, donc le côté un peu informatique. Mais sinon, on avait des gens comme Benoît Delépine, hein, qui est un réalisateur assez connu dans le milieu de la télévision. Il y avait le journaliste Denis Robert, il y avait un écrivain, Serge Quadrupani, il y avait... Nathie Bayon, qui est prof et sociologue. Il y avait également une sociologue du groupe Clarisse, qui, qui se motive depuis 2-3 ans pour essayer un petit peu de démonter toutes les théories sur l'insécurité. Il y avait aussi des avocats, des représentants du syndicat de magistrature, du syndicat des avocats de France. Donc on essaie un petit peu de varier entre, je dirais, ceux qui connaissent bien l'informatique, ceux qui connaissent bien le droit et ceux qui connaissent bien tout simplement les rapports humains, comment vivent aujourd'hui les précaires en France ou les étrangers ou même les détenus. Donc on essaie un petit peu de ratisser au plus large autour de ce qu'on pourrait appeler le mouvement social, entre guillemets, encore.
D'accord. Donc ça, c'est pour le jury. Ensuite, comment se constituent les dossiers
On essaye tous les ans de rameuter un peu plus large, c'est-à-dire qu'on incite depuis 2 ans, on incite n'importe qui qui reçoit notre appel ou qui va souvent sur notre site de pouvoir, soumettre leur propre Big Brother préféré de l'année. C'est-à-dire qu'on a un formulaire assez simple à remplir. Ce qu'on demande généralement aux gens, c'est pas de prendre cet outil comme une espèce de moulinette à délation. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens de dénoncer son patron, son voisin ou les gens qui les emmerdent tout simplement. Il faut quand même que ce soit des faits avérés, c'est-à-dire des choses qui ont été écrites, publiées, soit dans la presse, soit dans des rapports officiels, des rapports parlementaires, des décisions de justice ou d'autorités indépendantes, pour que finalement le candidat s'impose de lui-même. Parce que nous ne sommes pas des surprocureurs, parce qu'on n'est pas là non plus, on n'a pas non plus le temps, tout est bénévole, hein, on travaille avec des journalistes, des juristes, des avocats, etc., qui eux-mêmes nous soumettent des dossiers. Le travail qu'on fait avant de délivrer la sélection entière, c'est de s'assurer effectivement que les sources sont réelles, que ça a bien été rapporté dans tel journal, à telle époque, par telle commission, par tel comité d'experts, et que les déclarations sont véridiques. Et parfois, il y a même des dossiers qui tiennent la route que sur une seule déclaration de quelqu'un qui a fait soit un petit dérapage syntaxique ou qui s'est lui-même pris pour Big Brother un jour, comme ça. À partir du moment où les faits sont avérés, le dossier est acceptable. Et après, c'est à nous, de soumettre au jury. En gros, il y a entre 30 et 40 candidats par an, de soumettre au jury une espèce de représentativité un petit peu des menaces en fonction de 6 catégories qu'on pourra, si vous voulez, évoquer. Donc, c'est découpé selon le type de personnes impliquées. Et donc, tous les ans, on essaye un petit peu d'être exhaustif. Encore une fois, ça ne reste pas, évidemment, objectif dans la répartition des choix.
Mmh. Bon, on va peut-être s'arrêter sur ces catégories, peut-être.
Ouais.
Donc, comme vous venez de le dire, il y en a 6. Il y a l'élu ou l'État ou l'élu qui a...
Le représentant de l'État, le pire de l'année, en fait.
Ouais, le pire, là.
Généralement, c'est le pire homme politique ou l'organisation politique. Ça peut être aussi un parti ou un ministère, en fait.
Mm-hmm. Ensuite, il y a l'Orwell de l'entreprise.
La société la plus intrusive, on va dire.
L'Orwell des localités.
Donc le projet local, effectivement, le plus liberticide.
Ensuite, Europe, l'Orwell Europe, donc la politique ou le projet global le plus intrusif.
Oui, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a énormément de mesures qui nous sont imposées, ou parfois par prétexte de transposition européenne, directement de Bruxelles et du Conseil des ministres.
J'enchaîne ensuite avec le prix spécial Novlang.
Oui, donc on en a parlé tout à l'heure. Novlang qui vise donc à distinguer, même s'il a encore, tous les candidats ont un côté Novlang, on a tous un côté Tennessee, disait l'autre, mais là en fait, le Novlang, c'est un peu ce qui ressort dans tous les candidats, et là donc on a essayé de trier parmi le discours et les prises de position les plus manipulatrices, on va dire, qui incitent en fait le citoyen à se sentir donc quasiment obligé d'accepter la sécurité. Parce qu'il a envie de se sentir protégé, tout simplement.
Mmh. Et le dernier prix traditionnel, c'est le prix spécial pour l'ensemble de son œuvre.
Oui, qui transgresse les âges, qui dépasse un petit peu tout le côté un petit peu annuel de la cérémonie.
Et Novation, je crois, cette année, il y a...
Non, c'est
la deuxième année.
Non, depuis le début, on descend le prix Voltaire, qui est un peu là, en quelque sorte, la vraie récompense. C'est-à-dire que là aussi, c'est un exutoire pour arriver à... Non pas que dénoncer, mais mettre l'accent sur des actions militantes qui ont forcément attiré l'attention, soit des médias, soit des leaders d'opinion, comme on dit vulgairement. Oui, également nous, effectivement, qui sommes alertés par ces collectifs ou par ces groupes parfois très individuels, très, je dirais, qui restent dans leur coin, mais qui font des actions exemplaires, quoi.
Jusqu'alors, la paix avait réussi à s'imposer. Et là, levé de bouclier.
Voilà, donc on continue notre émission autour des Big Brothers Awards, les trophées de la surveillance qui se sont déroulés vendredi dernier à La Clé. Donc là, pour nous mettre un peu dans l'ambiance, on va entendre en fait un extrait d'une remise d'un de ces Big Brothers, et on a choisi celui consacré à État et élu. Donc on entend ça tout de suite.
Le jury a décidé d'attribuer le prix Orwell, État et élu, aux députés Clément, Léonard et Fenech pour leur ardente promotion du GPS.
Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, toi, en tant que magistrat, sur les conséquences de ce texte au niveau de la récidive ? Donc qui est censé être réduite, et au sujet du gadget du bracelet GPS.
Alors, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que c'est un texte déposé par Clément et Léonard, avec une première proposition de Fenech, qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, hein, qui va passer en discussion au Sénat. Donc, c'est chaud et il faut absolument se mobiliser. C'est, au terme de ce texte, d'abord, les récidivistes seront punis de façon absolument pas individualisée. Ça sera le retour à la case prison quasi automatique, hein, à l'américaine. Et en ce qui concerne le GPS, des gens qui ont achevé leur peine pourront être suivis. Mais c'est plus que le bracelet électronique, on a fait mieux. Pourront être suivis par une surveillance électronique mobile pendant 20 à 30 ans. Voilà, je crois que tout est dit. Alors, ce qu'il faut faire, on s'est mis en grève, nous, mercredi, les juges du syndicat de la magistrature, contre ce projet totalement orwellien. Et ce qu'on vous demande, permet de nous a menacé de sanctions disciplinaires. Et je crois qu'il est vraiment de notre devoir de citoyenne de nous mobiliser contre cette horreur. Voilà.
Voilà donc la remise du prix à Clément, Fenech et Léonard pour leur promotion ardente du placement sous bracelet GPS comme double peine pour certains condamnés. Est-ce que vous pourriez un peu développer justement cet aspect du système répressif qui se met en place aujourd'hui, le bracelet GPS ?
Loïc, pour le jury, peut-être tu peux t'exprimer là-dessus.
Oui, ce qui est effrayant, c'est l'utilisation qu'on pourrait en faire en d'autres mains. Toujours dans l'optique d'une dictature qui s'impose, quels outils on lui donne pour arriver à nous garder sous sa coupe. On n'a aujourd'hui pas la possibilité efficacement, techniquement, de mettre quelque chose sur des gens de façon à les tracer. Quelque chose qui existe difficilement. Alors on a des trucs, on peut suivre les téléphones portables, on peut peut-être faire suivre quelqu'un. Mais aujourd'hui, la technologie pour placer quelque chose sur quelqu'un qui ne puisse pas l'enlever et toute l'infrastructure qu'il faut pour arriver à recueillir ces données, les classer, faire des alertes si jamais il déborde de tels périmètres, c'est une technologie qu'on n'a pas. Ça paraît tellement dément de développer une technologie comme ça, tellement un outil à dictature, que ce n'est pas un projet de société globale. Donc là, on a une excuse qui nous permet de développer une technologie dont l'usage à grande échelle devient possible simplement par extension du nombre de gens auxquels ça s'applique. Le danger ici, hein, ça vient de développer la technologie pour qu'il ne reste ensuite au dictateur qu'à changer d'échelle. Quand on imagine que sur ce genre de technologie, on pourrait avoir des scientifiques qui sont chargés de mettre ça en œuvre, qui se révoltent, qui disent non, on ne veut pas imposer ça à toute la société, impossible. On refuse de faire les programmes pour faire ça. On refuse d'inventer des choses qui vont servir à tracer les citoyens pour le régime dictatorial. Mais là, comme il y a l'excuse d'appliquer cette technologie à des gens qui sont manifestement antipathiques,
parce qu'en fait, pour placer dans le contexte, c'est la proposition des trois députés donc, qui ont reçu ce prix cette année. C'est une proposition qui vise à mettre sous bracelet électronique mobile des gens qui ont déjà accompli leur peine. Donc aujourd'hui, on nous parle de prisonniers qui ont été enfermés pour des peines, je crois que c'est plus ou moins 5 ans. Donc il faut être criminel. Mais il y a dans certains cas, ça a été soulevé par des magistrats, des mineurs pourraient être concernés pour des peines beaucoup, beaucoup moins importantes. Donc il y a quand même déjà des petits trous de souris où on peut s'introduire pour élargir un petit peu ce dispositif à d'autres personnes. Il y a le député Fenech, qui est donc parmi les trois primés, qui s'est saisi d'un rapport au nom de l'Assemblée sur la faisabilité d'installer ce type de bracelet sur des personnes qui ont donc accompli leur peine. Fenech et le fervent partisan d'élargir cette disposition à des gens pour un suivi socio-judiciaire, donc des gens qui, pourquoi pas un jour, sont soit interdits de séjour dans un département, dans une région, ou soit sont tout simplement sous contrôle judiciaire, donc des gens qui n'ont même pas fait, qui n'ont même pas été jugés. Donc on n'en est pas encore là, mais quelque part on se souvient aussi du fichier ADN qui s'appelle le FNAEG, qui a été à l'époque effectivement créé pour tracer et surveiller les personnes condamnées pour des crimes sexuels. Aujourd'hui, on peut, pour un simple vol d'autoradio, et encore une fois, en étant simple suspect, on peut venir vous prélever votre salive. Donc ce type de technologie qui est soi-disant discrétionnaire et réservée à une certaine catégorie de personnes, À partir du moment effectivement où le système est en place et où il y a tout un système de validation par des commissions, par les préfets, par les bidules, on s'imagine bien que effectivement il suffit d'un quelques amendements qui peuvent passer comme une lettre à la poste pour élargir le dispositif dans des catégories plus larges de population. Et là, on entre vraiment sur le système vraiment dangereux pour la population entière. Quoi.
Mais justement, on va peut-être parler du deuxième Orwell, puisque c'est l'Orwell Entreprise. Et la société qui a été distinguée cette année s'appelle VisioWave, qui est une filiale de TF1 et qui a mis en place un système dans les moyens de transport pour surveiller. En fait, c'est des systèmes de vidéosurveillance. Donc, on est complètement un peu dans l'affiliation de...
C'est vrai que la vidéosurveillance, Loïc, tu peux t'en parler, hein, un petit mot de VisioWave, parce que c'est vrai que c'est un des joyaux de la sélection cette année. C'est quand même une petite société qui reste pour l'instant assez discrète, qui est installée en Suisse pour des raisons, j'imagine, fiscales, et dont TF1 a pris une participation il n'y a pas longtemps. Et c'est une boîte, je dirais, technologique, comme il existe des milliers en Europe, et qui donc fournit des produits qui sont potentiellement très intrusifs et qui, dans son discours, a très très peu de regard sociétal qui pourrait, je dirais, légitimer un petit peu l'usage de ces technos. Donc, c'est vrai que, quelque part, VisioWave, encore une fois, ne fait partie, je dirais, a été sortie du panier, sachant qu'il y en a d'autres qui sont œuvres dans le même domaine. Et ils ont un catalogue de produits qui est somme toute assez classique, puisqu'ils font de la vidéosurveillance dans les transports, ils font des systèmes de petites caméras mobiles qui travaillent sur les réseaux IP. Donc ils installent ça auprès des collectivités locales. Mais après, ils ont derrière un catalogue de produits qui sont un peu plus intrusifs, comme tout ce qui concerne la détection de comportements suspects. Tu veux dire quelques mots là-dessus?
Oui, dans le métro, c'est bien connu.
Oui, c'est bien connu, mais on ne se rend pas compte à quel point, effectivement, c'est comme des systèmes qui potentiellement sont très biaisés, parce qu'on peut facilement se tromper quelque part. Et donc, là, encore une fois, on laisse la machine agir à la place de l'homme.
Et là, dans le bouquin d'Orwell, il y a la télévision qui regarde les gens dans leurs appartements. Oui. C'est-à-dire la télévision, c'est pas seulement quelque chose qu'on regarde, c'est quelque chose qui vous regarde, qui vous surveille. C'est Big Brother est en train de vous regarder. Là, il s'agit pas de le mettre dans les maisons. Mais encore une fois, on invente la technologie pour. Et à défaut de le mettre dans les maisons, on le met dans les rues. Dans le bouquin d'Orwell, des caméras, il y en a, mais c'est essentiellement présenté comme étant quelque chose à l'intérieur. Quand les gens se déplacent à l'extérieur, ils sont surveillés par les autres personnes. Qui sont éduqués à avoir une attitude d'espion, etc. Donc là, on va à la fois moins loin et plus loin que le bouquin d'Orwell, c'est-à-dire qu'on met sous surveillance tout ce qui est à l'extérieur du périmètre privé. Et VisioWave, a un rôle essentiel à jouer, puisque c'est eux qui fournissent la technologie. Ils vont plus loin aussi, parce que dans le bouquin d'Orwell, il n'est pas tellement question que les machines analysent le comportement des gens et filtre l'information de façon à pouvoir faire délation. Or, VisioWave aussi développe un système de reconnaissance à partir des images pour savoir si quelqu'un a un comportement qui peut être suspect, s'il fait quelque chose qu'il ne faudrait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose qu'il ne faudrait pas? Est-ce que c'est quand on rentre dans une station de métro et puis qu'on ne prend pas sa rame et puis qu'on remonte? Est-ce que c'est parce qu'on reste dans le bus toute la ligne et puis qu'ensuite on remonte dans l'autre et puis qu'on repart dans l'autre sens? On ne sait pas, mais c'est la machine, des gens qui ont jugé qu'eux. On imagine toutes les erreurs qui peuvent se produire et puis les condamnations ou les mises en examen qui peuvent suivre à des espèces de diagnostics erronés de la machine. Donc là-dessus, on a, de la part de VisioWave, une action qui va clairement dans le sens de la création d'un univers orwellien. Et la prochaine étape pour VisioWave, qui pourrait être récompensée l'année prochaine, c'est d'imaginer des systèmes qui permettent de surveiller les citoyens chez lui. Alors ça paraît maintenant là délirant. Mais si on se reporte 10 années en arrière, la vidéosurveillance, il y a 10 ans, dans les rues, c'est quelque chose qui aurait paru complètement absurde. C'était interdit, il n'y avait pas moyen de le faire. C'était de l'ordre du fantasme. Bon, vous lisez trop de livres de science-fiction. Aujourd'hui, on se dit, ouais, bon, bah, tant pis, c'est comme ça, mais il y a peut-être des autorités de régulation qui vont surveiller ça. on est vaguement inquiet. Alors, on dit, ouais, bon, c'est arrivé, OK. Mais dans les maisons, non, quand même pas. Quand même pas. Ben, on peut se donner sur ce sujet-là, avec VisioWeb, rendez-vous dans 10 ans.
Parce qu'au niveau technologique, je tiens quand même à te dire qu'il y a quand même une grosse part des groupes de la part de ces sociétés-là qui jouent à la fois, effectivement, sur leurs compétences et leur leadership. Bon, dans leur communiqué de presse, il faut les voir un petit peu s'étaler. Et il y a beaucoup de bidonnage parce qu'effectivement, on les attend au tournant, ces sociétés technologiques, pour inventer autre chose que de faire des caméras qui prennent des images. Donc, les logiciels experts capables de reconnaître des comportements suspects, on a même remis un prix la première année à l'INRIA, donc l'Institut public de recherche en informatique, qui avait financé 4 ans auparavant une équipe entière pour, ça s'appelait le programme Orion, qui donc visait à faire de la vidéosurveillance intelligente. Donc encore une fois, on a juste le mot smart, intelligent, dans la techno pour vendre un système expert qui dépasse la volonté de l'homme, justement. Et donc, on s'est aussi rendu compte que ce type de technologie, donc de reconnaissance faciale, notamment, est bidon. C'est-à-dire qu'après le 11 septembre, tout le monde se souvient, effectivement, de tous les aéroports américains, il y avait pas mal de tests pour savoir si on aurait pu ou pas arrêter les terroristes qui ont écrasé des avions. Et donc, pendant 2 ans, il y a eu des tests entiers dans tous les principaux aéroports américains pour justement savoir si on arrivait à repérer des terroristes dans des bases de données qui passent un portique de sécurité. Et en fait, tous les grands projets en 2 ou 3 ans ont été arrêtés aux États-Unis, donc le pays qui était le plus demandeur. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'esbroufs sur le côté sécuritaire où ça fait partie des plaquettes, je dirais, très chic des sociétés technologiques qui vendent un peu tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, il y a comme des décideurs, bon, ben, qui sont décideurs, mais quand on est décideur, généralement, on n'a pas le temps de lire les rapports qu'on nous fournit, donc on décide sur des présomptions. Effectivement, c'est très vendeur de dire que vous faites de la vidéosurveillance, mais en plus, intelligente, voyez. Donc, encore une fois, aussi, c'est le discours de ces sociétés-là qui a été dénoncé, et pas forcément sur l'usage qu'ils en font, parce qu'effectivement, on peut toujours dire... Une entreprise ne fait que vendre un produit et après, il laisse les autres s'en dépatouiller. Quoi.
D'accord. On continue, si vous voulez bien, avec le suivant. Là où il n'y a pas d'esbrouf, justement, c'est peut-être au niveau local où il y a d'autres exemples parmi les nominés, mais celui qui a obtenu le prix cette année. Ce sont deux personnes pas très recommandables, puisque c'est le président du Conseil général de la Seine-et-Marne, René-Paul Savary.
De la Marne,
pardon. 51,
région de Reims, ouais.
Et Michel Biard, le maire de Vitry-le-François, pour avoir mis en œuvre donc, un système de fichage des populations démunies de leur communauté.
Alors, le vainqueur, c'est effectivement un projet donc, initié par le Conseil général de la Marne, et donc qui a été repris, je dirais, au niveau politique. À son compte par le maire de Vitry-de-François, qui fait partie un petit peu des villes test du département. Pour résumer un petit peu toute cette catégorie-là, qui donc désigne un petit peu le projet local ou la politique urbaine qui met en danger les libertés individuelles ou collectives, il y a eu donc dans cette sélection, je crois, 3 dossiers qui touchaient directement des expériences, on va appeler ça, où les citoyens sont donc cobayes, qui visent un petit peu à préparer le terrain de la future loi de prévention de la délinquance, donc, qui a été lancée par Sarkozy il y a 2-3 ans, qui n'est jamais sortie, et il y a toujours eu des feux et des contre-feux lancés dans ce débat-là. Et donc, il y a donc la Marne qui était citée. Il y a eu également les Pyrénées-Atlantiques, où il y a une banlieue de Pau qui est également concernée par tout un système de fichage très rapproché des élèves dits en difficulté. Il y a aussi la direction des affaires sociales du Nord, donc qui, elle, a demandé à une partie des centres d'hébergement d'étrangers de recenser un petit peu les personnes qui passaient par ces services. Donc, en gros... Il s'agit au niveau local, au niveau de la proximité, de s'assurer quelque part que les citoyens sont bien protégés. Et donc, on essaie de rameuter un petit peu tous les services sociaux, donc les éducateurs, les écoles, la sécu, les allocs, etc., pour, je dirais, essayer de quadriller un petit peu les gens en fonction de leurs difficultés.
Oui. Et on voit bien d'ailleurs que ce sont les élus, ce sont les préfets, l'institutionnel qui devancent même parfois les projets de loi. Les projets de loi ne sont pas encore finalisés, que déjà se mettent en place un certain...
Ah ben là, c'est encore plus tordu, parce que c'est plutôt le ministre qui avait demandé, donc à l'époque Sarkozy, qui avait demandé justement à ce qu'il y ait des... entre guillemets, des expériences en département, enfin en
D'accord,
région.
Les projets tests.
Et donc, il y a 22 villes, je crois, qui ont été choisies. Et dans chacune d'entre elles, là encore, on n'a pas pu tout scanner, mais il y a des choses au niveau local qui sont hallucinantes par rapport à ce qui serait autorisé, même dans le croisement des fichiers, ce qui est logiquement interdit, quoi.
Bon, après le local, on continue avec l'Europe. Cette année, c'est le Conseil. C'est les ministres de l'Intérieur qui ont l'habitude de se réunir et qui ont une brillante idée, c'est de proposer que les immigrés qui traditionnellement débarquaient d'avion, par exemple, sur le territoire d'un pays de l'Union européenne, étaient accueillis en centre d'hébergement. Et là, ils ont proposé carrément de constituer des camps.
C'est les camps à l'extérieur de l'Europe.
Les camps de rétention hors de l'Europe. Ouais. Ce qui, en l'occurrence, c'est pas lui qui a gagné. Hein. C'est pas eux qui ont gagné, justement.
C'est pas eux ?
Non. C'est le projet des passeports biométriques.
Ah, pardon.
Encore une fois, on retombe dans l'identité de toute la population. C'est donc le projet, encore une fois, donc, de la Commission et du Conseil. Donc, la Commission de Bruxelles. Oui, on s'y perd un petit peu, je reconnais.
Ils ont tous leur chance, hein, d'une certaine
voilà, c'est
manière.
Un peu ça.
C'est donc, pour qui j'aurais voté, quoi.
Ouais, non, les passeports biométriques, c'est donc pour les citoyens européens. Et ils ont donc décidé cette année, nos chers ministres, d'imposer deux identifiants, c'est-à-dire l'empreinte digitale et le visage numérisé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura deux éléments... biologique de l'être humain à identifier qui sera sur une puce ou quelque chose dans le genre, alors qu'aux États-Unis, qui est le pays qui justement qui a fait le plus pression pour que les contrôles aux frontières, même au sein des pays dits alliés, soient renforcés, les Américains en fait n'en ont imposé à leurs citoyens qu'un seul identifiant biométrique. Donc il y a eu un côté zèle de l'Europe qui a été un petit peu mis en exergue. Et, mais en l'occurrence, c'est vrai que ce prix européen généralement, les responsables sont toujours les mêmes, c'est les ministres et la Commission, hein, puisque le Parlement, dans énormément de dossiers qui touchent aux libertés, n'a que très peu de pouvoir pour arrêter ces projets. Donc, généralement, c'est vrai que le Conseil des ministres, et notamment ce qu'on appelle le Conseil JAI, donc le Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures, qui se réunit tous les mois. Généralement, c'est eux qui portent les plus gros projets qui nous préoccupent. Donc, c'est pas étonnant finalement que l'an dernier aussi, c'est eux qui l'ont eu, mais pour un autre type de projet, c'est pas étonnant finalement que ce soit eux qui se retrouvent le plus facilement, le plus souvent récompensés, on va dire.
D'accord. On peut continuer. Enfin, on a parlé tout à l'heure de la nouvelle langue avec. Et donc le prix avait été remis au Gixel, peut-être pour y en dire.
Alors le Gixel, ben Luc connaît très
que
bien.
Je connais pas du tout.
J'ai laissé la parole. Il connaît un petit peu la question.
Donc sur Novlangue, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais l'idée la plus commune, c'est la langue de bois, on peut dire.
C'est-à-dire dire une chose, unique, voilà,
dire une chose alors que on cherche à faire autre chose. Mais il y a aussi une idée de conditionnement de la personne par les mots. On est limité dans ce qu'on peut exprimer par les mots. S'il y a un concept qui ne porte pas de nom, il va falloir qu'on utilise plus de mots pour le dire. Et une grande idée d'Orwell, c'est que dans 1984, le langage est sans cesse remanié de façon à trouver des mots qui interdisent certaines pensées. D'avoir un langage dans lequel les combinaisons de mots ne permettent pas d'exprimer certaines choses, des pensées séditieuses, quelles qu'elles soient. Donc là, le prix Novlangue récompense des gens qui vont dans cette direction, qui à la fois essayent d'inventer un discours qui dit le contraire de ce qui se produit réellement, et qui à la fois poussent à la fabrication de mots pour désigner des concepts qui sont trompeurs. Alors, pour illustrer ça, Je vais peut-être parler des dauphins du prix mai, parce que le Gixel a eu un prix, parce qu'il pousse d'autres à avoir un discours novlangue. Mais le Gixel lui-même n'a pas un discours novlangue. C'est très croustillant parce qu'il a été récompensé pour avoir eu un discours extrêmement franc sur nous voulons que le contrôle soit accepté par la population. Mais j'y reviendrai.
Oui, rappelons juste que le Gixel, c'est le groupement des industries de l'interconnexion des composants et des sous-ensembles électroniques.
Voilà, c'est des industriels qui, parce qu'ils cherchent à accroître leurs profits et puis leurs marges, pousse le gouvernement à travers un rapport à prendre des mesures dont certaines sont de l'ordre de conditionner la population, s'il vous plaît. Mais les dauphins, il y en avait deux, qui sont le SNEP et SCPP d'une part et TCG, qui sont deux groupements qui, dans des domaines connexes...
Ils sont aussi des consortiums d'industriels, d'un côté de la musique et de l'autre côté de l'informatique.
Et qui, eux, ont un vrai discours novlangue. Donc, le SNEP et SCPP, on les connaît à travers le débat sur la copie privée. Pourquoi, quand vous allez dans un magasin de disques, vous vous trouvez avec un disque que vous ne pouvez pas mettre dans votre ordinateur ? Parce qu'ils ont mis là-dedans des petits dispositifs qui sont censés vous empêcher de le copier. De façon, disent-ils, à sauvegarder la création artistique. Parce que trop de copies est susceptible de tuer les financements de la création artistique. Ça, c'est leur discours novlangue. La réalité des faits, qu'ils se gardent bien de dire avec une constance tout à fait remarquable, hein, jamais on va les entendre dire l'effet réel de ces mesures-là. L'effet réel, c'est de contrôler l'usage de toute œuvre multimédia chez vous. C'est-à-dire qu'eux ont le contrôle de ce que vous écoutez. Ça, c'est l'effet réel. Alors, on voit l'énorme différence qu'il existe entre leur discours, nous cherchons à promouvoir la création artistique, et l'effet réel de ce qu'ils font et de ce qu'ils demandent de promouvoir, qui consiste à contrôler l'usage de toute œuvre multimédia chez vous. Alors, ça paraît du délire, mais... Quand vous achetez ce CD et que vous ne pouvez pas le mettre dans votre ordinateur, est-ce qu'ils ont contrôlé l'usage que vous faites ? Bah, certainement, ils vous obligent à le mettre dans un lecteur qui va l'accepter. Et curieusement, ce lecteur, il est estampillé par eux. Et pour les lecteurs de DVD, par exemple, il est estampillé par eux à condition qu'ils interdisent de skipper la pub. Vous ne pouvez pas passer la pub qu'il y a au début. Vous ne pouvez pas passer certaines choses. C'est moins bien qu'un lecteur de cassette vidéo où vous pouvez toujours faire fast-forward. Là, non. Sur les lecteurs estampillés par eux, la pub, vous l'avez au début, forcément. Alors, est-ce qu'ils vous contrôlent ou pas ? Ah oui, bah, difficile de dire.
Un petit peu,
donc,
ouais.
Voilà.
Un petit peu quand même.
Donc, eux étaient dauphins parce qu'ils ont ce discours novlangue phénoménal. On le rapporte... si on repense à la vidéosurveillance, Visio Wave dans les rues, le SNEP SCPP qui fait la promotion de choses pour...
Le SNEP, c'est le syndicat des maisons de disques, donc toutes les grandes majors du disque.
Mais ils ne sont pas tout seuls là-dedans, en fait. Et eux, ils sont français, et puis, mais ils ne sont pas les seuls à pousser à ça. Mais eux, ils étaient bien représentatifs. Donc, Visio Wave s'occupe de la rue, et SNEP SCPP ne s'occupe pas vraiment de vous surveiller chez vous, mais ils sont quand même en train de commencer à prendre le contrôle des appareils électroniques que vous avez chez vous, au nom de la création de la musique. Et ils sont complétés par l'autre dauphin, TCG. Alors TCG, eux, ce qu'ils disent, et ça c'est une vraie perle, ils font la promotion d'une informatique de confiance.
C'est Trusted Computing.
Trusted Computing. Eux, ils fabriquent du matériel. Donc ce qu'ils voudraient, c'est que dans tous les matériels informatiques... vous ayez des composants de confiance. Alors, que font ces composants de confiance ? Eh bien, c'est un espèce de truc de crypto qui contrôle le fait que votre matériel se met en marche ou pas, que le logiciel qui tourne sur votre matériel agit ou pas, en fonction d'une permission qui leur est donnée. Par qui ? Par eux. Pas par vous. Donc là, au niveau matériel, c'est eux qui vont vous donner la permission ou pas d'utiliser votre matériel ou certains logiciels.
Pour cela, il faudra payer, c'est ça l'intérêt, c'est ça le motif derrière ça.
Mais même si vous ne payez pas, est-ce que c'est tolérable que quelqu'un d'autre vous donne la permission d'utiliser votre matériel chez vous ? C'est insoutenable.
Non, mais je vais quand même essayer de comprendre la motivation.
Vraisemblablement, c'est tellement lucratif de contrôler qu'ils vous donneront ça gratuitement.
D'accord.
mettez quelque chose chez vous que moi je contrôle. Je vous le donne. Pourquoi pas ? Donc ça, c'était les deux dauphins. Ils ne l'ont pas eu parce qu'on a jugé que c'était beaucoup plus spectaculaire ce que le Gixel avait fait. Donc le Gixel a pris...
Le membre du Gixel, je crois qu'il y a des gens comme Sagem, Alcatel, EADS, Thales, que des gens super bien.
Grosso modo, tous les industriels de l'électronique. Donc, ils ont fait un livre bleu parce que la situation économique est difficile et qu'il faudrait que le gouvernement prenne des mesures pour que ça s'améliore. Et donc, de façon à améliorer leur situation, ils demandent au gouvernement de mettre en place des moyens pour éduquer la population afin qu'elle accepte mieux le contrôle, la surveillance, les périphériques biométriques, et ils vont même jusqu'à suggérer que ce soit enseigné aux enfants, parce qu'il faut commencer dès le plus jeune âge. Donc là, eux, ils n'ont pas du tout par le dos de la cuillère. Ils savent que leur marché sera d'autant plus gros que chaque personne, chaque citoyen sera concerné par la surveillance électronique. Ils savent aussi qu'il y a beaucoup de lobbies citoyens qui s'élèvent contre la surveillance électronique. Donc, ils demandent au gouvernement de faire de la propagande. Ils le demandent, mais très clairement.
D'accord. Justement, par rapport à tout ce panorama un peu inquiétant, je suis loin de tout connaître, mais justement, je ne connais pas, les citoyens ne sont pas forcément au courant non plus de ce qui est en train de se mettre en place. Une initiative comme celle des BBA, quel impact peut-elle avoir ? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place aujourd'hui pour essayer de contrer un peu ce nouveau 1984 qui s'annonce peut-être ?
Nous, ce qu'on fait dans cette opération, c'est de la contre-information. C'est-à-dire qu'on se bat aussi sur le même terrain qui est celui des terrains médiatiques. C'est-à-dire qu'on essaye de... Dans une stigmatisation, une cérémonie où c'est forcément festif. C'est-à-dire que la soirée en tant que telle, effectivement, on doit être là pour souligner, au marqueur, les choses. Donc, on force le trait. Mais sur les... Moi, j'espère, effectivement, on espère tous, évidemment, sinon on ne le ferait pas, que ça élève un petit peu les consciences et que ça incite les journalistes à aller les titiller, tous ces gens-là qui ont eu des prix.
Est-ce que vous avez vu justement des retours
Pas très peu. Moi, je suis assez déçu, finalement. On se rend compte qu'en servant sur un plateau ce type de palmarès, finalement, ça n'incite pas beaucoup les journalistes à faire leur travail, c'est-à-dire qu'ils préfèrent rester le cul sur leur chaise, à passer des coups de fil... pour savoir s'ils peuvent venir à la soirée, s'ils ont une accréditation ou si on peut leur passer un dossier de presse, plutôt que de se bouger les fesses à passer un coup de fil aux gens qui ont eu le prix ou qui ont été sélectionnés, pour savoir simplement si ça va changer dans leur politique, dans leur moyen de... dans leur façon de regarder le monde, quoi. Et on se rend compte que, quelque part, on est un peu... on nous prend un petit peu peut-être au pied de la lettre, peut-être qu'il faudrait... précisément, on perd moins, j'en sais rien.
Mais justement, il y a le prix Voltaire, des citoyens que vous avez un peu distingués pour justement leur capacité, leur initiative de dénoncer un certain nombre de mesures, de faits.
Oui, non, c'est vrai que le prix Voltaire, effectivement, ça... Mais c'est plus là, je dirais, pour donner un éclairage à ceux qui, dans leur coin, dans l'ombre, font bouger les choses. On pourrait d'ailleurs faire que ça, hein. On pourrait d'ailleurs remettre des prix que à des personnes qui ont mérité, et en même temps, parce qu'en même temps on pourrait dénoncer ce qu'ils ont justement dénoncé eux-mêmes. Donc c'est effectivement une opération, alors que là on renverse un petit peu la tendance, et là cette année c'est vrai que c'était intéressant d'aller voir donc le prix Voltaire. En fait il a été donné à deux ex-aequo. Je laisse justement Loïc en parler. Non mais quand même, parce que quelque part moi je fais partie des gens qui ont trié les dossiers, donc j'ai un peu de mal à donner mon avis sur le palmarès. Il y avait 7 candidats et donc il y a eu 2 ex-aequo. L'un, Charles Ouarau, qui est un syndicaliste à Marseille, qui s'oppose depuis plusieurs mois au prélèvement de sa salive pour entrer dans le fichier génétique, puisque, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça a été grandement élargi pour accueillir des traces génétiques de personnes, de prévenus pour les délits de droit commun. Donc lui, Charles O'Haraud a été un petit peu le héros qui représente un petit peu la frange de la population, des personnes précaires et en l'occurrence fouteurs de merde pour le pouvoir, c'est-à-dire des gens qui font des manifs et qui osent dire tout haut que ça va pas. Et côte à côte a été primé un collectif de Calais qui s'appelle le collectif Cessure, qui était en procès cet été à Boulogne-sur-Mer pour avoir hébergé ou aidé tout simplement des sans-papiers qui cherchent à passer en Angleterre. Donc là, c'est quand même des militants de base qui ont donc été victimes des restantes dispositions des lois Sarkozy et Perben, et donc qui élargissent les moyens de surveillance, les moyens d'enquête et d'infiltration sur des personnes qui ne font qu'aider autrui, qui sont donc accusés de délinquants de la solidarité.
Justement, par rapport à ça, à la suite de ces Big Brothers Awards, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises? Est-ce que des gens qui justement travaillent, collaborent à l'organisation de ces BBA, à la suite de ça, essayent de mettre en place, au niveau des freeways ou je ne sais pas ce genre de choses, par rapport à la vidéosurveillance? Est-ce que vous réussissez quand même à greffer quelque chose pour essayer un peu de résister à tout ça?
Moi qui suis juste membre du jury, et donc avant ça, j'ai été influencé par les Big Brother Awards. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas une manifestation patente, un résultat comme un retrait de projet de loi suite à une remise de prix, ça a indéniablement une influence parce qu'on en parle, parce que ça a un côté tellement effrayant qu'on préfère en rigoler. Quand on montre ça à d'autres personnes, mais c'est pas possible, non. Et, souvent, c'est l'éclat de rire. Mmh. Et il y a 2 ans, moi, j'ai travaillé pour l'INRIA, qui avait reçu un prix auparavant, sur une technologie potentiellement liberticide. Et dans les discussions de travail qu'on a eues à l'intérieur de l'INRIA, il a été fait référence à ce prix des Big Brother Awards qui avait été octroyé auparavant. Et l'attitude, la façon dont le projet a été mené par rapport à cette technologie potentiellement liberticide, toute technologie est potentiellement liberticide, celle-là, elle l'était particulièrement, l'INRIA a accepté d'avoir une attitude éthique plutôt qu'une attitude, je m'en foutisse, de nous sommes des chercheurs, les conséquences ne nous regardent pas. Cette équipe à l'intérieur de l'INRIA, grâce au Big Brother World, a réussi à faire ça. Donc ça, c'est un effet indirect dont moi, je peux parler. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup et que des gens qui travaillent directement ou indirectement à des choses qui pourraient être liberticides sont inspirés par ce que les Big Brother Awards décernent.
J'ai un autre exemple. Effectivement, l'an dernier, on a remis un prix Voltaire à des éducateurs de Chambéry et d'Annecy qui avaient été pris comme les premiers cobayes de la fameuse loi Sarkozy de prévention de la délinquance, où donc on leur demandait concrètement de dénoncer tous les actes d'incivilité des jeunes qui sont censés suivre et donc avoir une confiance permanente. Là, donc, on leur demande de briser la confiance dès qu'ils cassent une vitre ou qu'ils volent un scooter. Donc, par exemple, j'ai donc été amené à rencontrer à Chambéry les gens qui ont été à l'origine d'une grève qu'ils ont déclenchée en mars 2004. Bien avant, et donc il y a eu des manifs juste après. Donc ça a été un petit peu les précurseurs, un petit peu les premières victimes qui osaient dire tout haut ce qui se passait. Et ils m'ont, quand je suis allé les voir, ils m'ont quand même vraiment expliqué que au sein de leur au niveau de leur hiérarchie, c'est-à-dire au niveau du conseil général de Savoie et Haute-Savoie, qui gère leur budget. Il y a eu une espèce de, tout d'un coup, un respect. C'est-à-dire, effectivement, n'en faisons pas plus. Et même si, quelque part, on passe pour des empêcheurs de tourner en rond et on n'a pas, je dirais, d'assises suffisamment dangereuses pour les politiques pour leur faire peur aujourd'hui, ils ont quand même ressenti que le fait d'avoir été distingués par les BBA dans leur travail de tous les jours, ça leur a permis justement d'avoir un petit peu plus de liberté. C'est-à-dire qu'ils... Tout d'un coup, on leur lâchait la grappe, quoi. Et surtout, on prenait leur action de révolte au sérieux. Alors qu'avant, c'était uniquement considéré comme d'actes syndicalistes, les traditionnels, d'agités. Donc là, j'étais quand même très, très content de voir finalement que ça sert à ça au moins.
Il y a aussi un intérêt tout bête, quoi. C'est de voir réunis tous les nominés aussi en un an. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est en projet. De faire une liste, tout simplement, de quelqu'un fasse la liste. Déjà, au moins, on sait un minimum de choses.
Mais on peut aussi nous reprocher de ce qu'on a d'ailleurs conscience de ça, qu'on crée une vraie base de données, en fait. Et on peut aussi créer, donc on fiche les ficheurs, ça, à la limite, ça ne me dérange pas, mais on peut aussi créer une espèce de besoin, c'est-à-dire que les municipalités ou les entreprises qui cherchent à avoir les techniques les plus tordues, ils vont peut-être aller dans notre base de données pour piocher la société ou la technologie qui a été distinguée telle année.
Ou aller chercher les bons militants qui ont été bien distingués par le prix
Voltaire, par exemple. Oui, faire gaffe à tel militant parce qu'il a eu un prix telle année.
Mais on n'a pas parlé du prix spécial du jury.
J'essaie de trouver une transition pour l'annoncer, mais
rapidement,
justement,
parce qu'il est formidable.
L'émission se termine.
Oui, c'est donc Vaillant, Sarkozy et Perben réunis. Ça
pour le
l'ensemble de l'œuvre
pour l'ensemble de l'œuvre
non pour la FNAEG dont tu parlais tout à l'heure
l'ensemble de l'œuvre c'est en fait le fichier en tant que tel le fichier génétique qui a donc germé sous le socialisme qui a été élargi une première fois après les attentats du 11 septembre par Monsieur Vaillant qui était à l'époque ministre PS de l'Intérieur élargi par Sarkozy et dernièrement par Perben. Donc là encore il y a une espèce de complicité active des trois anciens ministres pour avoir institué un système de fichage, en l'occurrence, intrusif au sens où l'identité génétique, c'est quand même, l'intégrité physique par essence.
Et ce qui est formidable, c'est que ce fichier a réussi à être quasiment élargi à toute la population, potentiellement. C'est pas resté délinquants sexuels, des gens qui sont vraiment, vraiment très méchants. Là, à peu près n'importe qui, dont Charles Loireau, est susceptible d'avoir son ADN prélevé. Donc là, un régime dictatorial qui arriverait n'aura même pas à faire le changement d'échelle. Les bases de données sont déjà constituées, sizées, pour pouvoir traquer tous les maquisards et les retrouver.
C'est pas à la fin de l'émission qu'on pose ce genre de questions, mais ça pose la question aussi de savoir est-ce qu'on a tellement besoin d'une dictature pour être à ce point-là contrôlé.
Le risque, c'est qu'il y ait des gens qui piratent les bases, quoi. Donc ça soit utilisé par n'importe qui. C'est ça le premier risque aujourd'hui dans nos sociétés soi-disant démocratiques.
Ce sera le mot de la fin et je vous remercie bien tous les deux,
Loïc,
Jérôme. On se quitte, on vous laisse tout de suite dans les bras des échos du Capricorne, nos voisins, nos amis malgaches.